VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 2 février 2018, en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Et nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, 3 messes hier à Kinshasa pour rendre hommage à Étienne Tshisekedi, 1 an après sa mort.
Au Tchad, journée de commémoration également, le parti de l'opposant Ibni Omar Mahamat Saleh, porté disparu il y a 10 ans, veut savoir ce qu'il est advenu de lui.
Au Cameroun, pas de nouvelles de Sissiku Ayuk Tabe depuis l'extradition à Yaoundé du chef séparatiste anglophone.
Visite de 2 jours du président français Emmanuel Macron au Sénégal.
Ici aux États-Unis, publication attendue aujourd'hui d'un document républicain accusant de parti pris anti-Trump le FBI, la police fédérale.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, au moins 3 messes ont été dites à Kinshasa à la mémoire d'Étienne Tshisekedi au premier anniversaire de sa mort. Le corps du leader historique de l'opposition n'est toujours pas rapatrié. Eddy Issango.
La famille biologique et politique d'Étienne Tshisekedi avec Félix Tshisekedi, fils du défunt, s'est retrouvée à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. Monseigneur Gérard Moulumba, frère du défunt qui célébrait la messe, a pointé du doigt les autorités congolaises qui empêchent, selon lui, les rapatriements du corps d'Étienne Tshisekedi 1 an après sa mort. Une autre aile de l'UDPS s'est réunie à Gombe avec le premier ministre Bruno Tshibala, proche d'Étienne Tshisekedi, rejeté par la faction soutenant les fils biologiques. Mais ce Tshibala a affirmé que les rapatriements de la dépouille n'est qu'une question de temps. Pour les vice-premiers ministres Shadary Ramazani, certains membres de la famille et du parti utilisent la dépouille de Tshisekedi comme fonds de commerce politique. Une troisième faction du parti a organisé une autre messe à Kinshasa avec comme leader Valentin Moubaké.
Au Tchad, il y a 10 ans, disparaissait l'ancien porte-parole de l'opposition Ibni Omar Mahamat Saleh. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour exiger que toute la lumière soit faite sur les circonstances de sa disparition. Anastasie Toudiech.
Une commémoration de 3 jours a débuté hier jeudi à N'Djamena, au siège du Parti pour les libertés et le développement, dont Ibni Omar Mahamat Saleh était le fondateur. Les organisateurs ont voulu que l'événement soit aussi un hommage à toutes les personnes mortes pour la promotion de la démocratie et de l'état de droit au Tchad. Mahamat Ahmad Alabo, secrétaire général adjoint du PLD, réclame la restitution du corps de l'ex-opposant. Ancien ministre de 2 présidents, dont Idriss Déby Itno, Ibni Omar Mahamat Saleh a été démis de ses fonctions en 1994, puis est entré dans l'opposition. L'enquête de la commission mise en place par N'Djamena a conclu qu'Ibni Saleh a été enlevé à son domicile par des forces de défense et de sécurité tchadiennes. Des conclusions que les autorités tchadiennes réfutent.
Au Cameroun, pas de nouvelles depuis l'extradition à Yaoundé du chef séparatiste anglophone Sissiku Ayuk Tabe et d'autres gendarmes ont été tués dans le nord-ouest. Des détails avec Raïssa Girondin.
Depuis leur arrestation au Nigeria le 5 janvier et leur extradition au Cameroun, on reste sans nouvelles du leader sécessionniste Sissiku Ayuk Tabe et d'une 40aine de partisans. Leurs avocats disent avoir essayé en vain de les rencontrer. Le haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés se dit très préoccupé. Chris Anou, membre du mouvement indépendantiste, a affirmé que si lundi 5 février, Yaoundé n'a pas donné de preuves qu'ils sont vivants, il pourrait les considérer comme morts. 3 militaires camerounais et 1 civil ont été tués hier dans des incidents séparés dans le nord-ouest. Depuis la déclaration symbolique de l'indépendance des régions anglophones, plus d'une 20aine de soldats camerounais ont été tués. Issa Chiroma Bakari, le porte-parole du gouvernement, reconnaît qu'il y a une escalade de la violence, dénonçant une campagne sur les réseaux sociaux où les séparatistes invitent les populations à résister et à tuer.
Eh bien...
En Guinée, la campagne des élections locales s'achève ce vendredi avec pour la première fois une compétition a priori ouverte pour désigner les conseils municipaux dans un pays marqué par plus de 50 ans de régime autoritaire. Quelques 5,9 millions d'électeurs sont convoqués dimanche à ce scrutin qui devait se tenir en 2010 mais a été constamment reporté depuis malgré de nombreuses manifestations de protestation souvent meurtrières.
Visite de 2 jours d'Emmanuel Macron au Sénégal. Cette visite est consacrée mais surtout à la troisième conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation, co-présidée par son homologue Macky Sall. La visite porte aussi sur la lutte contre l'érosion côtière à Saint-Louis, menacée par la montée des eaux, mais également sur la sécurité régionale. Les présidents français et sénégalais se rencontreront ce matin pour évoquer notamment la force conjointe anti-djihadiste du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, la coopération bilatérale et l'immigration. Nous reviendrons sur la conférence de Dakar en seconde partie de cette édition.
Au Zimbabwe, l'opposante Joyce Mujuru et plusieurs de ses partisans ont été blessés hier lors de violences survenues en marge d'une réunion de campagne. Ils en imputent la responsabilité à des militants du parti au pouvoir. Le point avec Yakuba Ouédraogo.
Joyce Mujuru, ancienne vice-présidente passée à l'opposition, a été visée par des jets de pierre devant un centre commercial à Harare. D'après Jefferson Chitando, son porte-parole, je cite, « Elle est sortie de sa voiture pour saluer la foule lorsque les gens de la ZANU-PF ont commencé à jeter des pierres. La présidente du Parti National Populaire a été blessée au visage. Dix de ses partisans ont aussi été blessés en tentant de la protéger. Des élections présidentielles et législatives sont prévues avant juillet. Autrefois pressentie pour succéder à Robert Mugabe, Madame Mujuru a été évincée en 2014 à la suite d'une campagne menée par l'ex-première dame Grace Mugabe. Le nouveau président Emmerson Mnangagwa a promis des élections libres et transparentes, mais la date précise n'est pas encore connue.
L'Éthiopie a levé l'interdiction qui empêchait ses travailleurs peu qualifiés d'émigrer au Moyen-Orient. Une nouvelle loi a été également votée pour leur éviter les mauvais traitements, Abdourahmane Dia.
Un responsable du ministère du Travail, Abebe Ayla, a déclaré que la nouvelle loi encadre les agences recrutant les Éthiopiens qui cherchent de l'emploi à l'étranger. Il a annoncé que son pays a signé des accords avec le Koweït, la Jordanie et le Qatar pour encadrer les flux de travailleurs. Le gouvernement a également ouvert des centres de formation pour ces travailleurs peu qualifiés et candidats au départ à l'étranger. Selon l'Organisation internationale du travail, l'Éthiopie est un des pays les plus pauvres du monde et également une source importante de travailleurs étrangers. En 2013, lorsque l'interdiction est entrée en vigueur, environ 460 000 Éthiopiens gagnaient leur pain dans divers pays du Moyen-Orient. À l'époque, des rapports faisaient état de mauvais traitements. Une vidéo montrant une Éthiopienne traînée par les cheveux au Liban était devenue virale. L'Arabie Saoudite, autre destination de choix des Éthiopiens, a procédé à des expulsions de masse. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a déclaré que plus de 14 000 de ses citoyens ont été rapatriés depuis novembre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le président Donald Trump devrait approuver aujourd'hui la publication d'un mémorandum confidentiel des républicains de la commission du renseignement de la Chambre des représentants qui accuse le FBI et le ministère de la Justice de parti pris anti-Trump. Selon un officiel de la Maison-Blanche, le président américain est, je cite, « OK » avec la divulgation du document sans modification et informera le Congrès de sa décision probablement aujourd'hui.
La police fédérale et le ministère de la Justice sont contre toute publication de ce référendum républicain qui porterait, selon certains qui l'ont lu, sur les écoutes mises en place par le FBI contre un membre de l'équipe de campagne Trump en 2016 en contact avec des agents russes présumés. Pour les démocrates, il s'agit d'un document caractérisé par la politique politicienne et visant à saboter l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur le même sujet.
Les factions palestiniennes ont raté hier une nouvelle échéance dans leur réconciliation, pourtant annoncée tambour battant fin 2017. Le point avec Morgane Guiriec.
Le Hamas a accepté le 12 octobre au Caire de céder à l'autorité palestinienne les pouvoirs dans la bande de Gaza. Il s'était donné le 1er décembre pour une passation des pouvoirs et début février pour régler la question sensible des fonctionnaires. En 2007, l'autorité palestinienne avait ordonné à des dizaines de milliers de fonctionnaires de la bande de Gaza de rester chez eux tout en percevant leur salaire. Le Hamas avait alors recruté des dizaines de milliers de personnes pour les remplacer, mais a cessé de les payer en 2017. Un autre casse-tête concerne les forces armées du Hamas. Le mouvement islamiste a vu les États-Unis placer son chef Ismaël Haniyeh sur leur liste noire des terroristes. L'Égypte, qui avait joué un rôle dans l'accord d'octobre, doit tenir en mars une présidentielle. Le Caire a donc d'autres préoccupations que Gaza. L'envoyé spécial de l'ONU au Proche-Orient, Nikolai Mladenov, a prévenu que la bande de Gaza est au bord d'un effondrement total et risque encore une fois d'exploser.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Eric Manirakiza.
Le Rwanda veut accorder aux investisseurs plus de facilité à accéder aux terres pour les encourager à s'installer dans les zones économiques spéciales. Cette nouvelle politique permettra aux investisseurs d'acquérir un bail à long terme et de s'engager dans la négociation des prix des terrains. En plus de la zone économique spéciale de Kigali, le Rwanda dispose de 8 parcs industriels répartis dans les districts. Le Nigeria a débuté la construction du nouveau port sur 90 hectares en eau profonde de 16 mètres pour 1,5 milliard de dollars. Il est situé dans la zone de libre-échange de Lekki dans l'état de Lagos. Ce port est l'un des plus profonds d'Afrique subsaharienne et permettra de booster le volume de fret transitant par l'état de Lagos. Cette infrastructure est le fruit d'une coopération entre la société chinoise d'ingénierie portuaire et le groupe américain Louis Berger. Le Maroc envisage de simplifier, numériser et sécuriser les procédures maritimes. Rabat ambitionne d'établir des liaisons de voies rapides internationales au bénéfice des entreprises et du commerce. C'est aussi pour assurer la promotion et la pérennité des autoroutes de la mer entre les ports du Maroc et de l'Union européenne. Le bloc européen constitue son premier partenaire commercial. En 2016, les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne ont dépassé 34 milliards d'euros.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La tenue de la CAN 2019 au Cameroun n'est pas remise en cause à ce stade.
C'est ce qu'a indiqué Junior Biniam, le responsable média de la CAF, dont le comité exécutif est réuni depuis hier à Casablanca, au Maroc donc. Il a souligné qu'une mission d'audit est partie au Cameroun du 12 au 23 janvier et va livrer son rapport définitif fin février. La question ne sera pas discutée aujourd'hui en Assemblée Générale, a-t-il ajouté, précisant qu'à ce stade, la tenue au Cameroun de la plus grande compétition sportive africaine n'est pas remise en cause. La 40e Assemblée Générale de la CAF va, entre autres, pourvoir 4 sièges vacants au comité exécutif et discuter de la candidature du Maroc au Mondial 2026.
Justement, le royaume chérifien espère le soutien des autres pays africains pour sa candidature à ce Mondial 2026.
Tout à fait, Idrissa. Le Maroc espère obtenir le soutien des fédérations africaines lors de l'Assemblée Générale de la CAF. Mais attention, la FIFA est vigilante et met en garde contre les tentatives d'influence et les critiques contre la candidature adverse. Le Maroc fait face à la candidature commune États-Unis, Mexique, Canada. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a déjà appelé les fédérations africaines à un soutien franc et massif en faveur du royaume.
Le responsable du recrutement de West Ham suspendu pour des soupçons de racisme.
Et oui, Idrissa, Tony Henry a été suspendu en attendant les résultats d'une enquête sur des propos à caractère raciste révélés dans le tabloïd britannique The Daily Mail. Il lui est reproché d'avoir écrit un mail daté du 27 janvier dans lequel il juge, à propos d'un footballeur d'origine camerounaise, je cite, « Nous ne voulons plus d'Africains et il n'est pas assez bon ». Interrogé par le tabloïd, Tony Henry affirme que les Hammers voulaient limiter le nombre de joueurs africains parce qu'ils ont une mauvaise attitude et mettent la pagaille quand ils ne sont pas dans l'équipe, citant l'exemple de l'attaquant sénégalais Diafra Sakho, transféré lundi à Rennes.
Victoire pour les athlètes russes accusés de dopage.
Coup de tonnerre, Idrissa, le tribunal arbitral du sport a infligé hier un camouflet au comité international olympique avec l'annulation totale de ses sanctions à l'encontre de 28 sportifs russes, créant la confusion à 8 jours de l'ouverture des JO 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud donc. Pour cause de dopage institutionnalisé, les Russes s'étaient vus retirer par le CIO 13 médailles, dont 4 en or, remportées à Sotchi lors des Jeux Olympiques de 2014. Après la décision du tribunal arbitral du sport, il en récupère 9, dont 2 en or, et retrouve la tête au tableau final. NBA pour terminer, avec vous Idrissa, quelques résultats de la nuit dernière.
Les Detroit Pistons ont battu les Memphis Grizzlies 104 à 102. Victoire des Washington Wizards sur les Toronto Raptors 122 à 119 et défaite des San Antonio Spurs face aux Houston Rockets 91-102.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. John Tshibangu, un colonel déserteur de la RDC qui menace de renverser le régime de Kinshasa, a été arrêté à Dar es Salaam en Tanzanie. Les détails dans ce dossier que présente Eddy Issango.
L'arrestation est confirmée par ses proches, comme les témoignent son directeur de cabinet, Thierry Kialumba, joint par VOA Afrique.
Il a été arrêté à son arrivée à l'aéroport de Dar es Salaam et il a été conduit dans les locaux de la police nationale où il était interrogé. Et on vient de le transférer au Kijé de l'armée nationale tanzanienne. Et on ne sait pas encore ce que ni la police ni l'armée tanzanienne lui reprochent.
L'officier qui s'affuble du grade du lieutenant général a donné un ultimatum de 45 jours au président congolais Joseph Kabila de quitter le pouvoir. Selon ses proches, il n'a pas encore accès à ses avocats, Thierry Kialumba.
Bon, jusque-là, on ne permet encore aucune visite, donc même pas l'avocat ne peut pas le voir, et même pas les nôtres qui sont avec lui là-bas ne peuvent pas accéder là où il est. Mais nous avons des bribes d'informations qui nous parviennent des services de renseignement tanzaniens. Et c'est pour ça que nous savons où il est en ce moment et dans quel service il est en train d'être interrogé.
La Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, confirme aussi l'arrestation et dit craindre l'extradition de l'officier. Le secrétaire général de la FIDH chargé de l'Afrique, Paul Ntsapou.
Son intégrité morale et physique ne sera pas du tout sécurisée si jamais on l'extradait en RDC. Et nous craignons que dans les contextes actuels où pratiquement la situation sociopolitique, sécuritaire et même la situation des droits de l'homme qui est une situation des plus dramatiques sur le continent actuellement, avec, comme vous le savez, des répressions sanglantes inacceptables, répression des manifestations pacifiques, les exécutions sommaires et extrajudiciaires, les arrestations et détentions arbitraires, et que en ces moments où la crise est totale, où on décrit cette situation entretenue par le régime de Kinshasa, que John Tshibangu soit extradé là-bas, on l'enverrait vite à la mort. Même si nous, à la FIDH, n'en approuvons pas le méthode de prise de pouvoir et de conservation de ce pouvoir par la force, nous allons demander aux autorités tanzaniennes de ne pas extrader le lieutenant général John Tshibangu.
L'officier déserteur avait réapparu il y a près de deux semaines dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Il disait avoir donné 45 jours au président Kabila pour demander pardon aux églises profanées et aux Congolais, sinon il les chasserait du pouvoir.
La crise dans le nord-est du Nigeria a provoqué le déplacement de milliers de personnes, même aux environs d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Il existe encore des camps. Gilbert Tamba, un des correspondants de VOA Afrique, s'est rendu sur place. Voici son reportage.
Plus de 1500 personnes déplacées vivent encore dans le camp de Durumi à la périphérie d'Abuja. Avant leur fuite, ils étaient enseignants, pharmaciens, tailleurs, commerçants ou alors mécaniciens. Aujourd'hui, ils ont du mal à accéder même à la nourriture, à l'éducation et à leurs besoins les plus élémentaires. C'est le cas d'Adamu Tahala. Il était couturier, propriétaire d'un atelier de couture à Borno avant la crise. Maintenant, il se débrouille avec une seule vieille machine pour survivre.
Ils sont venus et ils ont commencé à brûler les églises et ont assassiné des innocents. Ensuite, ils ont attaqué des mosquées, tuant des gens juste comme ça. C'est ainsi qu'on a compris qu'ils étaient des membres de Boko Haram.
Selon les autorités fédérales, l'armée nigériane a considérablement réduit la menace de Boko Haram dans le nord-est du pays. Cependant, les effets néfastes du groupe terroriste sont toujours ressentis et Abuja abrite ainsi depuis près de 4 ans des camps de déplacés. À ce jour, seules les organisations humanitaires et certaines confessions religieuses apportent de l'assistance à ces déplacés. La situation sanitaire est aujourd'hui critique dans ce camp à cause du manque de produits pharmaceutiques. Philemon Emmanuel est le chef de ce camp.
Il y a bientôt 4 années que nous sommes ici et nous faisons face à de nombreux défis. Nous n'avons pas d'hôpital, même si l'ambassade a donné un kit médical, il n'y a pas de médicaments et il n'y a pas de travail.
Alerie Issa est mère de 2 enfants. Pour elle aussi, les défis à relever dans ces camps sont énormes.
Nous sommes confrontés à beaucoup de conditions difficiles ici. Par exemple, nos enfants ne vont pas à l'école. Les cases où nous dormons sont détruites et le plus grand problème, c'est que nous n'avons pas de nourriture.
La plupart des habitants de ces camps viennent du même district de Goza dans l'état de Borno. Quelques-uns sont originaires de l'état d'Adamawa dans le nord-est du Nigeria, principale zone où Boko Haram mène des attaques meurtrières depuis plusieurs années. On compte toujours environ 1,6 million de personnes déplacées dans le nord-est du Nigeria, où l'immense majorité se trouve à Maïdougouri et des états voisins. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
À Dakar, au Sénégal, troisième conférence de reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation, co-présidée par le président Macky Sall et son homologue français Emmanuel Macron. L'objectif, recueillir 3,1 milliards de dollars pour la période 2018-2020. Claire Morin-Gibourg a joint à Dakar un des participants, le militant de l'ONG One, Pierre Joty.
L'objectif de notre présence ici, c'est de mobiliser les dirigeants du monde et notamment, pour moi, le dirigeant français sur l'éducation et les nécessités de financement de ce secteur qui a été délaissé depuis quelques années, notamment par la France, en termes de développement. Et donc, l'idée, c'est que cette conférence soit un tournant pour l'éducation et notamment l'éducation des filles qui est au centre de ma plaidoyer avec WAN.
Quels vont être vos arguments? Comment vous allez essayer de convaincre Emmanuel Macron de mettre plus d'argent dans l'éducation des jeunes Africains?
Déjà, tout d'abord, il faut savoir qu'il a lui-même annoncé comme étant de ses priorités l'éducation des filles et la formation des maîtres à plusieurs reprises, notamment lors de ses dernières visites dans différents pays africains. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que après les paroles, les actes suivent. Et donc, on met en avant l'idée que qu'actuellement, il y a 130 millions de filles qui n'ont pas accès à l'éducation aujourd'hui. Et on veut mettre en avant ces jeunes filles pour dire que c'est pas normal qu'en 2018, il y ait encore ce type de situation et qu'il est temps de se mobiliser collectivement pour arriver à faire de ce droit une réalité universelle.
Alors, la conférence vise à récolter 3,1 milliards de dollars pour la période 2018-2020. Est-ce que vous ne placez pas la barre un peu haut?
Eh bien, en fait, c'est évalué pour répondre déjà aux besoins des pays qui sont soutenus, les 65 pays qui sont soutenus actuellement par le Partenariat mondial pour l'éducation. Et en fait, on voit que dans d'autres secteurs, ça a pu marcher sur la santé, le Fonds mondial de lutte contre certaines maladies évitables comme le paludisme ou autres. Ça a marché de la mobilisation collective, donc nous, on aimerait pousser aussi pour le financement de l'éducation. Pendant cette conférence, je souhaitais expliquer rapidement que les jeunes ambassadeurs de WAN et ambassadrices ont fait partie d'une délégation des jeunes durant cette conférence. Et avec les autres jeunes de différentes organisations, on a écrit un discours de solidarité qui va être lu aux dirigeants vendredi durant l'Assemblée plénière. Voilà une partie de notre travail durant cette conférence.
C'était Pierre Joty, jeune ambassadeur de l'ONG OAN, à Dakar, à la troisième conférence de reconstruction des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Afghanistan, en 2015, annonce par le groupe État islamique de ce qu'il avait appelé la création de la province du Khorasan, une zone couvrant certaines régions du Pakistan et de l'Afghanistan. Et en juin 2016, le chef de cette province, Hafez Saïd, a été tué dans une frappe américaine. Sa mort a constitué un sérieux revers pour le groupe qui tentait de s'y implanter coûte que coûte, même en recrutant des enfants. Aïcha Tanzim de la VOA a rencontré deux d'entre eux. Son reportage est relaté ici par Jacques Aristide.
Lal Mohamed est un ancien enfant soldat.
J'avais 9 ans quand j'étais avec eux et maintenant j'ai 12 ans. Ils nous montraient des vidéos sur la façon de se battre et de commettre des attentats suicides.
Pendant près de 2 ans, Lal Mohamed et son frère, Bakhti Ali, ont vécu et ont été formés par le Khorasan du groupe État islamique. Maintenant, ils sont de retour et tentent de se réadapter à une vie normale. Nous sommes chez eux dans le district d'Achin de la province de Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan. Ils nous répondent sous l'œil attentif de leur père et du chef de la police locale. Les djihadistes sont entrés dans chacune des maisons de la localité pour recruter des adultes et des enfants. Bakhti Ali.
Les commandants du groupe nous montraient des vidéos des infidèles opprimant les musulmans. Ils nous disaient que la police locale et l'armée étaient leurs marionnettes, que nous avions besoin de faire le djihad contre eux.
Leur père Tawiz Khan s'est laissé convaincre par la propagande. Il a donc rejoint le Khorasan, emmenant ses fils avec lui.
Je n'avais pas cette barbe à l'époque. Il y avait beaucoup d'enfants là-bas. Ils avaient l'habitude de dire à ses enfants que s'ils commettaient des attentats à suicide, tous leurs problèmes seraient terminés et ils iraient droit au paradis.
Ils sont passés par un apprentissage et style militaire, exercice physique et d'armement, utilisation de pistolets, de fusils d'assaut automatiques AK-47, de bombes et de lance-roquettes. Le but ultime était de faire d'eux des kamikazes. Finalement, ils ont mis le frère cadet sur le champ de bataille, Lal Mohamed.
Les combattants de Daesh m'ont dit que nous allions rester derrière. Après, ils m'ont dit, tu dois aller devant et exploser ta ceinture explosive.
Mais les djihadistes ont perdu ce combat et ont dû se retirer.
Nous avons vu beaucoup de gens se faire massacrer. Nous voulions aussi massacrer quelqu'un parce qu'on nous avait dit que cela nous apporterait de saintes récompenses de la part de Dieu.
Finalement, leur père ne pouvait plus le supporter. Ils ont fui avec d'autres hommes. Le père travaille maintenant avec la police qui offre une certaine protection. Mais il connaît le danger si le Khorasan arrive à reprendre le contrôle de la région. Si ces deux jeunes garçons sont maintenant en sécurité, personne ne sait ce qui est arrivé aux dizaines d'autres qui étaient dans les madrasas contrôlées par le groupe État islamique.
Salut les amis, Roger Montou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.